France Culture, 6h-7h, les petits matins, tout de suite les titres de l'actualité, Clara Lecoq-Réal.
Bonjour à tous. L'Algérie s'est endormie au son des klaxons et des scènes de liesse. La population a célébré hier soir l'annonce du président Abdelaziz Bouteflika. Il ne sera pas candidat pour un cinquième mandat après 20 ans à la tête du pays. Mais les Algériens restent prudents car la page n'est pas encore tournée. La présidentielle qui devait se tenir le 18 avril prochain a été reportée. Aucune autre date n'est pour l'instant actée. Le président Abdelaziz Bouteflika veut avant cela qu'une nouvelle constitution soit soumise à référendum. Theresa May n'aura pas fait le déplacement pour rien à Strasbourg hier. La première ministre britannique a trouvé un accord avec les responsables européens autour du Brexit. Ils ont accepté des changements légalement contraignants, notamment sur la question du backstop irlandais pour éviter le rétablissement d'une frontière dure entre l'Ulster et la République d'Irlande. Le Parlement britannique décidera aujourd'hui, mardi, si ces altérations suffisent à adopter ou non l'accord. Le chef de file des travailliste Jeremy Corbyn appelle déjà les députés à rejeter ce texte négocié. Ils ne restent pas cloués au sol, mais ils devront subir des modifications. Les États-Unis vont obliger le constructeur Boeing à améliorer les logiciels et le système de contrôle embarqué dans ses avions, les 737 MAX. Les avions qui, en revanche, pourront donc voler outre-Atlantique après le crash en Éthiopie dimanche. 157 personnes sont mortes. L'état d'alerte au Venezuela, sur demande de l'opposant Juan Guaido, l'Assemblée nationale a adopté hier soir. Cela doit permettre de faciliter l'entrée de l'aide internationale dans le pays. Par ailleurs, les écoles et les services publics ne vont pas rouvrir aujourd'hui mardi, sur décision du gouvernement. Nouvelle journée chômée dans le pays après 4 jours passés sans électricité. Mehdine Mouche est condamné à la réclusion à perpétuité pour les 4 assassinats terroristes commis en 2014 au musée juif de Bruxelles. L'intéressé, qui n'a donné aucune explication en 9 semaines d'audience, a écouté cette nuit le verdict impassible. Et puis le Sénat en France s'apprête à valider définitivement la loi dite anti-casseurs. Cet accord, sans aucune modification du texte, empêche une deuxième lecture à l'Assemblée nationale. Mais Emmanuel Macron, le président, a déjà prévenu. Il saisira le Conseil constitutionnel sur cette loi censée répondre aux violences lors des mobilisations des Gilets jaunes.
France Culture présente Ruines. Après De nos jours, Notes on the Circus, Erwan Akyoun Larcher fait son retour sur la scène du cirque contemporain. Tantôt équilibriste, danseur ou tireur à l'arc, l'artiste dessine un autoportrait contrasté. Dans cet opéra en solitaire sont posées les questions du temps qui passe, de la responsabilité et des choix à faire. Ruines, du 13 au 23 mars au Montfort Théâtre à Paris. Un partenariat France Culture.
Il est 6h03, vous écoutez France Culture et nous retrouvons Toufik Hakem.
Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Bonjour tout le monde. En 2019, on célèbre le bicentenaire de la naissance de Gustave Courbet. Plusieurs expositions et manifestations sont prévues pour célébrer l'anniversaire de l'auteur de l'Origine du Monde à Ornans, pas loin de Dijon, dans le Doubs, c'est-à-dire au pays de Courbet. Le musée qui porte son nom ouvre le bal des commémorations avec une exposition des dessins du peintre. Courbet, dessinateur, c'est jusqu'au 29 avril, et pour nous en parler ce matin, Frédérique Thomas-Morin, qui est conservatrice en chef et directrice du musée Courbet, qui est aussi la commissaire de cette expo. Et nous avons avec nous aussi ce matin Marie-Marthe Fauvel, qui orchestre toute la programmation autour de ce bicentenaire.
Le réveil culturel. Mardi, expo.
Né en 1819, mort en 1877, on célèbre donc cette année le bicentenaire de la naissance de Gustave Courbet. Et à Ornans, sa ville natale et dans toute la région, des manifestations sont prévues sur toute l'année avec pour commencer, et d'une manière audacieuse d'ailleurs, cette exposition sur les talents de dessinateur du célèbre peintre. Courbet, dessinateur au musée Courbet, donc jusqu'au 29 avril. Je dis que c'est audacieux car il y a eu des précédents fâcheux. On a déjà tenté d'exposer des dessins attribués au peintre qui n'étaient pas de lui. Mais cette fois-ci, on est sûr. Hein, la 60aine de dessins montrés sont tous garantis authentiques. Bonjour Frédérique Thomas-Morin.
Bonjour.
Donc c'est des vrais dessins de Courbet.
Et oui. Le but était justement de, à partir de d'une exposition qui avait créé une polémique, comme vous venez de le signaler, donc en 1984, il y avait eu de son dessin à peu près d'exposer, et les experts de Courbet s'étaient un peu déchirés autour de l'authenticité de ses dessins. À la suite de ça, tout a été bloqué. Il y a eu une espèce de...
Vous cherchez le mot. Hein.
Oui, je cherche le mot.
De malaise.
Qui oui, a, voilà. Qui, ouais, qui a oui, vraiment, tout à fait.
Voilà, et qui a découragé bloqué. Les plus grands
absolument.
Amateurs des dessins de Courbet.
Et comme le département du Doubs souhaitait, pour célébrer le bicentenaire de la naissance donc du peintre, aborder des sujets nouveaux et risqués. Donc voilà, on s'est lancé dans une nouvelle exposition avec des chercheurs suisses, la société Courbet de Genève, qui a pour but justement de réaliser le catalogue raisonné de l'œuvre graphique de Courbet.
C'est-à-dire d'authentifier les dessins de Courbet.
Absolument, oui. Parce que la polémique venait du fait que certains dessins provenaient de la succession de la sœur de Courbet, sœur avec qui il avait eu des problèmes à la fin de sa vie et dont on soupçonnait le mari, qui était lui-même peintre, d'avoir falsifié des dessins. Donc c'est une histoire de famille qui est devenue une histoire qui a traîné jusqu'à aujourd'hui et qui embêtait bien les chercheurs.
En tout cas, on a enfin cette exposition, les dessins de Courbet, et c'est une bonne idée parce que son œuvre dessinée n'a jamais été exposée ou pas du tout connue par rapport à ses peintures, à ses sculptures.
Oui, absolument. Alors, il y a donc la raison que je viens de vous expliquer, mais il y avait aussi d'autres problèmes, c'est que les rares dessins de Courbet qu'on connaissait, il n'y en avait pas beaucoup. Et en plus, ils étaient de qualité très différente, ce qui était un peu déconcertant. Il y avait de véritables chefs-d'œuvre et des choses plus naïves. Donc, c'était difficile de se faire vraiment une opinion sur ce domaine-là.
Et pourtant, Courbet, de son vivant, exposait aussi ses dessins.
Oui, bien sûr. Il y avait des dessins qu'il réalisait comme des œuvres à part entière, absolument, et qu'il présentait dans des expositions.
Courbet, dessinateur, Courbet exposait lui-même ses dessins de son vivant. Sur la soixantaine de dessins que vous nous montrez dans cette exposition, Frédéric Thomas Morin, est-ce qu'on peut dire que ça couvre toute la vie, toute la carrière de Courbet ?
Oui, bien sûr, puisqu'il y a des dessins d'enfance et qu'il y a sans doute l'un de ses derniers dessins qu'il réalise quand il est en exil en Suisse, et qui est le portrait de son ami Bobovi. Donc oui, on peut dire que ça couvre toute la période, et la chose il me semble que cette exposition met en avant, c'est le fait que Courbet a toujours dessiné, contrairement à ce qu'on imaginait. Depuis tout jeune, il a ensuite pris des cours de dessin, contrairement à, là encore, à ce qu'on croyait. C'est vraiment quelqu'un qui maîtrise complètement le dessin, et on espère que l'exposition en témoigne.
Oui, c'est jusqu'au 29 avril, je le rappelle. Et bien alors, ce qui est très intéressant dans cette exposition, c'est que quand on dit exposition de dessin d'un peintre connu, on se dit ce sont des dessins préparatoires à des toiles. Sauf que pas du tout. La plupart des dessins, il les a faits à partir de toiles déjà faites.
Oui. Alors, il a une pratique qui est tout à fait personnelle, mais enfin, ça, c'est comme l'ensemble de son œuvre. Courbet, ce qu'il caractérise vraiment, c'est l'originalité de sa démarche. Et là, le dessin, pour lui, n'est jamais, enfin, pratiquement jamais préparatoire, à l'exception d'œuvres comme L'enterrement à Ornans, où là, effectivement, il est face à une œuvre monumentale, donc il est obligé de concevoir un schéma avant.
Mais les autres dessins, c'est pas ça du tout.
Non, ça. Ce sont des dessins, soit des dessins de souvenirs, quand il, dans ses carnets, met quand il voyage, soit des dessins qui sont de véritables œuvres en soi, donc en particulier quand il fait des portraits de ses proches, de ses sœurs, de ses amis.
Ou de ses ennemis. Je ne sais pas s'il était ami avec Berlioz ou pas. En tout cas, c'est lui qui a dessiné Berlioz. Je pense que Berlioz n'était pas du tout content du rendu, mais du coup, des années plus tard, jusqu'à aujourd'hui, quand on parle de Berlioz, automatiquement, c'est l'image de Courbet.
Du portrait de Courbet qui nous revient. Oui, et pourtant, effectivement, vous avez raison. Le tableau n'a absolument pas plu à Berlioz. Et d'ailleurs, je crois que la personnalité de Courbet il n'a pas été séduit non plus. Ça, c'est une rencontre un peu ratée. Mais vous avez raison, ce qui reste aujourd'hui comme image de Berlioz, c'est effectivement le portrait réalisé par Courbet.
Frédéric Thomas Morin, alors il y a aussi quelques dessins de Courbet d'après ses tableaux qui avaient déjà quelques années. Pourquoi il faisait ces dessins? Est-ce que c'était pour faire de la publicité à ses propres toiles?
Oui, après il utilisait ses dessins pour qu'ils soient reproduits, qu'il y ait des lithographies, enfin des gravures, oui, pour faire connaître son œuvre en particulier. On sait par rapport à son tableau de 1851, Les Casseurs de Pierre, il a repris un des personnages, puisque Les Casseurs de Pierre, vous avez deux hommes, enfin un homme et un jeune homme, au bord d'un chemin qui casse des cailloux. Et il a repris le personnage le plus jeune en dessin tout seul pour faire
un produit dérivé, comme souffle le réalisateur. Est-ce qu'il faisait ça? Est-ce que c'était aussi pour une manière de faire connaître son œuvre?
Oui, c'est vrai que Courbet a été un des premiers artistes à avoir une volonté de faire connaître son œuvre. Il a utilisé la photographie pour ça, et donc ses dessins aussi lui servaient. Qu'il soit reproduit dans des journaux, bien sûr, c'est une des caractéristiques de Courbet.
Le réveil culturel. Toufik Hakem.
L'expo Courbet dessinateur est à Ornans, dans la ville du peintre, dans le musée qui porte son nom, jusqu'au 29 avril. Et cette expo s'accompagne d'un très beau et très volumineux ouvrage édité par les Cahiers dessinés. Courbet, les dessins, c'est le titre de l'ouvrage qui propose pour la première fois une étude historique d'ensemble avec des carnets de croquis aux dessins les plus aboutis, en passant par des esquisses préparatoires. Il y en a eu quand même un peu. Et tout ça, ça mêle des inédits et des œuvres célèbres. Alors, avec nous, bien sûr, la conservatrice en chef et directrice du musée Courbet, donc la commissaire de l'exposition, Frédéric Thomas Morin, mais aussi Marie-Marthe Fauvel, qui, bonjour, vous orchestrez toute cette saison Courbet, toute la commémoration de le bicentenaire Courbet.
Tout à fait, c'est une grosse machine, hein, effectivement, puisqu'on a prévu un certain nombre de spectacles et de dispositifs tout au long de l'année 2019. Donc ça a commencé en janvier. On a connu un premier grand moment, effectivement, avec l'inauguration des dessins, donc le 14 février dernier. Et puis ça se terminera à la fin de l'année, véritablement, avec divers spectacles et l'exposition Adler, dont on va probablement parler un tout petit peu tout à l'heure aussi.
Parce qu'il y a d'autres expositions prévues pour 2019.
Tout à fait. En fait, cette année, on a structuré vraiment l'ensemble de la programmation du bicentenaire sur 5 expositions, en fait, dont 3 majeures au musée d'Ornon.
Donc, qui commence par donc les dessins.
Les dessins,
Courbet
tout
dessinateur.
À fait. Ming face à Courbet, donc une confrontation, une réappropriation des œuvres de Courbet par Yan Peiming, le célèbre artiste contemporain qu'on connaît bien, notamment pour ses portraits d'Obama, de Mao Tse-tung, etc. Et puis, en dernier ressort, à partir du mois d'octobre, une exposition sur Courbet et Hodler, qui est un peintre très connu en Suisse, qui a connu Courbet à la fin de sa vie lorsqu'il était en exil en Suisse, et Hodler étant une sorte de suiveur, en quelque sorte, de Courbet.
Voilà. Et Frédéric Thomas Morin, ces dessins qui sont exposés, il y en a combien? Une soixantaine, c'est ça?
Oui, une soixantaine.
Alors, on a dit, Courbet était pas seulement peintre et sculpteur, il était aussi dessinateur. Cette exposition va permettre justement à asseoir cette idée en montrant les dessins de Gustave Courbet, les dessins qu'il faisait, les dessins qu'il exposait, les dessins qu'il gardait pour lui. Mais il y a aussi le Courbet illustrateur, il a illustré des livres.
Oui, il a illustré des livres pour ses amis.
Dont certains sont aussi illustres que Baudelaire.
Oui, tout à fait.
Ça rien de le rappeler, ouais.
Oui, bien sûr, il était effectivement ami avec Baudelaire.
Il a même participé à la presse de l'époque, lui qui était.
Oui. Ouais. Oui, oui. Et en particulier, il a réalisé un dessin pour le Salut Public, qui était, le journal qui a été publié au moment de la Révolution 48. Il n'y a eu que 2 numéros. Mais le frontispice était d'après un dessin de Courbet. C'est vrai que...
Dessin satirique, c'est bon aussi de le dire. Hein. C'est-à-dire qu'il était bon dans toute forme de dessin.
Oui, oui, absolument.
Même si le réalisme est là. Hein. C'est-à-dire que le trait réaliste rappelle que nous avons affaire à un grand peintre du mouvement réaliste.
Bien sûr, on a dit, et il le dit lui-même, qu'on lui avait attribué l'adjectif réaliste. Mais c'est vrai que Courbet est plus que ça, je pense. Les classifications, c'est toujours bien, ça aide les historiens de l'art. Mais quand on est face à quelqu'un comme Courbet, c'est difficile de le faire entrer dans une case. Donc, ses premiers dessins, par exemple, se rattachent plutôt à l'époque romantique. Donc, voilà, ce sont des choses qui apparaissent dans son œuvre, et là encore, réduire Courbet à un seul courant, c'est réducteur par rapport à la dimension véritable de l'artiste.
Est-ce qu'on voit l'évolution du trait de Courbet dessinateur dans cette exposition de ses dessins, Frédéric Thomas Morin?
Alors, le problème, évidemment, on voit par rapport à ses dessins de jeunesse et les dessins de la fin de sa vie, il y a évidemment une évolution. Mais chez Courbet, pour les dessins comme pour la peinture, il y a des œuvres qui sont quelquefois de qualité très différente pour les mêmes années. Mais ça, c'est une des caractéristiques de Courbet, et qu'il faut absolument, je pense, aujourd'hui avoir en tête, parce qu'autrement on peut avoir un jugement faussé.
Qu'est-ce que vous voulez dire par là, Frédéric Thomas Morin, que Courbet, le grand Courbet, pouvait aussi rater des dessins?
Voilà. Oui, je le dis. Bon, c'est peut-être pas mon rôle à moi, conservateur du musée Courbet, mais je pense que il faut dire ces choses-là parce que ça aide à comprendre, à comprendre son travail. Il y a déjà une chose, c'est que Courbet, il a jamais cherché à faire des choses simplement pour qu'elles soient belles. Donc, quelquefois, il fait des choses parfaites parce qu'il est capable de les faire. Hein. C'est pas qu'il ne sait pas dessiner ou peindre. Mais d'autres fois, il cherche autre chose que l'esthétique pure. Et donc,
il est dans l'expérimentation, vous voulez dire?
Absolument, absolument. Et ça, je me souviens très bien qu'à la grande rétrospective de 2007, c'était quelque chose d'assez frappant, parce que on pouvait voir d'un tableau à l'autre des différences extrêmes dans le rendu des choses. Et je pense que vraiment, j'ai l'air d'insister, mais je crois qu'il faut qu'on repense Courbet un peu autrement et en ayant ça en tête.
Alors justement, cette exposition de dessin vous révèle un autre Courbet ? Qu'est-ce que vous voulez dire par là, Frédéric Thomas Morin?
Nous c'est révèle, quoi je veux dire, moi, c'est un point de vue que moi je défends depuis que je suis au musée Courbet, mais je pense que c'est quelque chose qu'il faut maintenant intégrer vraiment, que les spécialistes de Courbet intègrent. C'est que il peut y avoir des choses. Par exemple, vous prenez l'origine du monde. C'est un tableau infiniment beau, maîtrisé, point de vue de la technique, ça c'est absolument sûr. Mais sur le fond, alors peut-être je vais faire hurler, sur le fond c'est pas une œuvre vraiment dans la carrière de Courbet très très fondamentale. On sait très bien que c'est une œuvre qu'il a fait pour répondre à une commande. Et donc, se focaliser sur cette œuvre-là comme on le fait aujourd'hui, enfin, à mon avis, c'est avoir un regard faussé sur Courbet. Je ne sais pas si j'arrive à bien vous faire comprendre ce que je veux dire. La forme.
Il est victime de son succès, Courbet. Il est victime de l'origine du monde.
Oui, c'est ça. Il me semble qu'on l'aime par rapport à ce tableau pour de mauvaises raisons et qu'il est beaucoup plus intéressant, par exemple, dans l'enterrement à Ornans ou dans des tableaux comme le retour des paysans de Flaget, donc des tableaux qui ont vraiment marqué une étape importante dans l'évolution de l'art, que pour l'origine du monde.
Que disent les autoportraits de Courbet, puisqu'il s'est représenté lui-même à maintes reprises?
Alors, on l'accuse. Mais vous savez, là, moi, je suis ici pour défendre Courbet, donc je ne serai peut-être pas très objective. Mais c'est vrai qu'on dit que Courbet était très satisfait de lui, qu'il faisait des portraits magnifiques. Mais de toute façon, il était très beau. Ça, c'est attesté par les témoins de l'époque qui racontent que oui, c'était physiquement, il avait beaucoup de prestance. Donc, et je pense qu'il était très conscient aussi de, à la fois de son talent, de son apparence. Donc voilà. Il se peint comme il se voit et aussi comme les autres le voient. Ceci dit, ses portraits racontent un peu l'histoire de sa vie aussi. Et ça, c'est quelque chose qu'il a voulu. Il y a une évolution à travers tous ces autoportraits pour, raconter les différentes épreuves, les différents moments de bonheur. Et ça se voit particulièrement dans une série qui s'appelle Les Amants. Hein, où il se représente
les amants dans la campagne.
Dans la campagne, auprès d'un, enfin au pied d'un arbre qui certainement était un chêne.
Mais d'ailleurs, ce dessin est très étrange parce que en fait, il reprend un thème peint 20 ans plus tôt pour rendre hommage à Virginie Binet qui était son amoureuse de l'époque.
Oui. Enfin, quand il le peint. Tout allait bien entre Virginie et lui. Après, quand il le dessine, oui, c'est un souvenir, c'est autre chose. Et puis entre-temps, il a réalisé un autoportrait qui s'appelle L'homme blessé, où justement Virginie Binet a disparu du tableau et à sa place, il y a une blessure. Sur le cœur de Courbet, donc vous voyez, ça c'est aussi, ça traduit des événements de sa vie, enfin c'est très subtil.
Quelles sont les pièces maîtresses de cette exposition? Quels sont les dessins que vous aimez par-dessus tout, Frédéric Thomas Morin, de tous les dessins de Courbet que vous exposez dans votre musée, le musée Courbet d'Ornans?
Alors, personnellement, je suis très sensible au rapport que Courbet avait avec sa famille et en particulier avec ses sœurs. Donc, il y a toute une série de portraits de ses sœurs qui sont très beaux. J'aime particulièrement celui où il représente sa sœur Juliette, hein, qui était la dernière de la famille, celle qui lui a consacré, enfin, qui a consacré toute sa vie à son frère. Et donc là, elle est très jeune et elle est endormie sur un livre. C'est un très beau dessin qui appartient au musée d'Orsay. J'aime beaucoup aussi un autre portrait, qui a été redécouvert pour l'exposition, qui s'appelle La lecture et qui représente sa sœur Zélie en train de lire. Et c'est un dessin qui était quasiment inconnue et qui appartient au musée de Tournai et qui est là vraiment au niveau de la technique. Alors bien sûr, il y a toute la douceur, tout le côté sensible qu'on peut trouver chez Courbet et qu'on oublie aussi souvent. Au-delà du réalisme, il y a toujours une grande sensualité, sensibilité chez Courbet. Et dans ce portrait en particulier, il y a tout ça, plus une maîtrise du fusain. Et puis j'aime aussi un très bel autoportrait de lui. C'est un portrait qui est au British Museum à Londres, un portrait de 1852 et qui le représente. Alors cette fois-ci avec les cheveux courts, une barbe. En fait, il est très moderne. Il a presque, on pourrait dire, un visage d'aujourd'hui. Et il a en même temps dans le regard quelque chose qui défie un peu celui qui le regarde. Et c'est aussi, je pense, l'insolence de Courbet qui est aussi une qualité pour moi. Bon, après.
Courbet dessinateur, attention, l'histoire ne fait que commencer avec cette exposition à l'occasion du bicentenaire de sa naissance. Marie-Marthe Fauvel, vous orchestrez toute cette séquence de commémoration.
Oui, tout à fait. Donc on a le département du Doubs travaille depuis une dizaine d'années maintenant sur le développement d'une politique culturelle sur l'ensemble du pays Courbet, donc qui est
le pays Courbet, ouais.
Pays Courbet, tout à fait. Donc qui s'appuie sur le musée Courbet bien entendu, la ferme familiale de Flaget qui est en fait la ferme de la famille du père de Courbet dans laquelle le père de Courbet aimait beaucoup se réfugier parfois avec sa famille, avec son fils notamment.
Lieu à visiter donc.
Tout à fait, bien sûr, ouvert au public. Alors pour le coup, c'est vraiment un lieu magique, bucolique, champêtre. Enfin, c'est vraiment un très très beau lieu. Avec une programmation culturelle, et on est vraiment en plein milieu de la ruralité, donc c'est vraiment très très intéressant en termes de développement culturel.
Et puis il y a l'atelier.
L'atelier bien sûr, l'atelier du peintre. Le deuxième, sachez qu'il y a deux ateliers en fait de Courbet à Ornan. Le premier n'est pas visitable, c'est là qu'a été peint l'enterrement à Ornan, mais il est très très peu accessible. Et en revanche, le département a acquis en fait le deuxième, qui est plus grand, qui est actuellement en cours de travaux. Donc là, on a préservé vraiment la structure, et dans les années à venir, les peintures murales, puisqu'il y a des peintures murales qui sont dans cet atelier, qui ont été peintes par Courbet, seront restaurées. Donc, et puis, donc, avec bien sûr des systèmes de visite guidée restreintes, parce que les lieux sont fragiles et assez étroits. Mais on pourra visiter, bien sûr, ce lieu-là. Et puis, j'ajouterais qu'il y a aussi les sentiers Courbet. Les sentiers de randonnée Courbet. Parce que dans le Doubs, on randonne, on fait du vélo, on fait beaucoup de choses. D'ailleurs, Courbet était sportif, athlétique. Hein. Mm-hmm. Donc, il parcourait sa vallée, il a beaucoup peint sa vallée. Et c'est ça que nous, on trouve aussi extrêmement intéressant, parce que finalement, chez Courbet, il y a beaucoup de choses qui partent de là. C'est quelqu'un qui a passé la moitié de sa vie dans sa vallée, l'autre moitié à Paris. Il revenait sans arrêt à Ornans. Quand il a été exilé, il a beaucoup souffert de ne pas pouvoir revenir à Ornans.
Et comme quoi, il n'y a pas que la bohème à Paris.
Ah non, pas du tout. D'ailleurs, pour l'anecdote, à ma connaissance, Courbet n'a peint qu'une seule scène urbaine. Sinon, il a peint des paysages, des autoportraits, on l'a évoqué tout à l'heure, des femmes. Il aimait beaucoup les femmes, bien entendu, des truites, des animaux. Enfin bref, tout ce qui le reliait finalement à une forme de... C'était un terrien, Courbet. C'était avant tout un terrien. Et d'ailleurs, il le revendiquait quand il allait à Paris. Hein. Il forçait un peu son accent. Il était assez malin. Hein. Il jouait vraiment sur les côtes pour pouvoir se démarquer, comme il avait dit qu'il le ferait dès le début, hein, à 18 ans, à 20 ans. Il disait, non mais moi, je veux faire scandale.
Et aujourd'hui, au pays de Gustave Courbet, ça reste l'enfant prodigue, l'artiste du coin.
Alors moi, je dirais, je parle sous le regard de Frédéric, je dirais que c'est l'enfant du pays, mais c'est l'enfant terrible du pays, en fait, Courbet.
Pourquoi on raconte encore des histoires?
Ah oui, mais Courbet fait partie.
Que vous n'osez pas raconter
Vous savez qu'avec l'enterrement à Ornan, ouais. Courbet s'est quand même fait particulièrement mal voir de ses concitoyens ornanais, qui étaient très fiers en fait d'apparaître sur ce tableau et qui en fait se sont trouvés ridiculisés au moment du scandale à Paris au salon. Donc quelque part, les Ornanais ont gardé une dent contre Courbet, et en même temps, il y a une forme d'attachement très fort des habitants de la vallée à Courbet qui s'en revendiquent. Encore aujourd'hui, de manière remarquable. Moi, je donne toujours un chiffre, si vous voulez, aujourd'hui, sur le bicentenaire, pour revenir un tout petit peu sur le bicentenaire. On a proposé, en fait, à vos porteurs de projets, aux amateurs, aux professionnels, de nous proposer des choses qui auraient pu être
intégrées
à la programmation, tout à fait. On a eu entre 250 et 300 propositions, ce qui est quand même juste énorme. Et j'en reçois encore aujourd'hui, hein, j'en ai encore eu deux hier ou avant-hier. Ça n'arrête pas. Courbet est très proche des gens. les gens se sont, enfin vraiment les artistes, mais pas seulement les artistes, se sont saisis complètement de cette personnalité très tonitruante, mais en fait elle est, les gens se sentent proches de Courbet.
Merci Marie-Marthe Fauvel d'être venue avec Frédéric Thomas Morin pour nous parler du bicentenaire Courbet qui commence justement avec cette exposition autour de ses dessins. Ah Roland, au musée Courbet justement, merci, bonne journée.
Vous êtes sur France Culture, dans un instant les informations de 6h30, à suivre le journal des idées par Jacques Munier et les enjeux internationaux par Xavier Martinet.
France Culture, l'esprit d'ouverture.
France Culture présente le Festival de géopolitique de Grenoble. À quelques jours du Brexit et à 2 mois des élections européennes, quel est l'avenir de l'Europe ? Allons-nous vers plus d'union ou au contraire vers une désunion européenne ? Venez vous pencher sur cette question pendant les 4 jours du Festival de géopolitique de Grenoble. Au programme, plus de 100 conférences, débats, tables rondes, expositions et concerts. Festival de géopolitique de Grenoble, du 13 au 16 mars, un partenariat France Culture.
Vous êtes sur France Culture, le journal de 6h30 par Clara Lecoq-Réal. Bonjour.
Bonjour Toufik, bonjour à tous. L'Algérie sans Abdelaziz Bouteflika sera-t-elle possible en 2019 ? Le président ne se représentera finalement pas, mais il reporte l'élection présidentielle et propose une réforme de la constitution algérienne. Réaction depuis Alger dans un instant. Nous donnerons aussi la parole à l'avocat de salariés de Renault Trucks près de Lyon. Ils veulent que soit reconnu le préjudice d'anxiété pour avoir travaillé dans un bâtiment plein d'amiante. Audience aujourd'hui. Et puis, comment est apparu le web ? Il fête ses 30 ans aujourd'hui. Nous vous expliquerons tout sur son origine dans moins de 10 minutes. Mais d'abord cette annonce faite tard hier soir par Theresa May. Après une défaite historique au mois de janvier, elle joue son va-tout à propos du Brexit aujourd'hui devant les députés britanniques du Parlement. Elle annonce pour les convaincre avoir obtenu des garanties sur la frontière irlandaise. Le texte a même été validé hier à Strasbourg par le président de la Commission européenne Jean-Claude Juncker. Il est précisé qu'un délai d'un an sera donné à Londres et à Bruxelles pour trouver des solutions techniques destinées à éviter la reconstitution de barbelés et de postes de douane entre l'Irlande du Nord et la République d'Irlande. Avant le vote prévu cet après-midi au Parlement, un homme doit donner son avis crucial, Antoine Gignot.
Il est totalement inconnu, ou presque, mais c'est sur les épaules du procureur général du Royaume-Uni que repose désormais l'avenir du Brexit. Geoffrey Cox est censé donner un avis juridique sur le texte présenté par Theresa May. S'il valide les changements annoncés hier soir, les députés eurosceptiques, rebelles, qui s'opposent depuis des mois au gouvernement, peuvent potentiellement déposer les armes. Pour l'instant, les parlementaires sont très divisés. Plusieurs conservateurs demandent un délai de 24 heures avant le vote pour réfléchir. Difficile pourtant de décaler la procédure. En cas de défaite du gouvernement ce soir, les députés sont censés, dès demain, examiner 2 autres scénarios. Ils doivent d'abord voter pour dire s'ils écartent ou non la possibilité d'une sortie sans accord de l'Union européenne, avant de se prononcer jeudi pour ou contre un report du Brexit.
Nous en venons à cette annonce en Algérie faite par Abdelaziz Bouteflika dans un message à la Nation publié hier par les médias officiels. Il explique ne pas se présenter pour un 5e mandat. Cela fait suite à des semaines de contestation pacifique de la société civile en Algérie. Dans la foulée, hier soir, plusieurs centaines de personnes se sont rassemblées dans le centre-ville d'Alger. Mais rapidement, le doute a pris le pas sur l'euphorie. Fatah, par exemple, rencontré par notre correspondante, il affirme que renoncer au 5e mandat ne suffit pas.
Il ne faut pas maintenant qu'ils nous disent qu'ils amènent quelqu'un de provisoire et que le président c'est fini. Il n'est pas candidat et point final. Comment ça ? Les autres, ils ne sont pas virés ? Ils doivent tous partir. Ouaya, il faut qu'ils rendent des comptes. Les hommes de l'ombre qu'on ne connaît pas, nous devons leur demander des comptes pour ce qu'ils ont fait pendant ces 10-15 dernières années. Le président ne savait pas ce qu'il se passait. Ils l'ont utilisé. Alors que nous, nous allons en prison pour la moindre petite chose. Eux aussi doivent rendre des comptes.
Et des appels à manifester sont ainsi déjà lancés en Algérie pour les journées de jeudi et vendredi. Car s'il ne se représente pas, le président Bouteflika a aussi annoncé le report de la présidentielle. Aucune nouvelle date n'est avancée pour le moment. Bouteflika propose au contraire de réformer la constitution algérienne. Combien de temps alors restera-t-il au pouvoir ? Une conférence nationale inclusive et indépendante doit superviser la transition. Nasser Djabi est sociologue à Alger. Il voit encore de nombreux points de discorde politique en Algérie.
Primo, les Algériens n'ont plus confiance dans le système et dans la personne. Et les manifestations l'ont prouvé. Ils ne veulent pas seulement un renouvellement du personnel politique. Ils veulent une transformation radicale de leur système politique qui est à l'origine du mal. C'est le système, son fonctionnement, le fonctionnement de la justice, le fonctionnement de l'administration. Ils le disent, ils l'ont bien dit, ils l'ont bien exprimé pendant les manifestations. Donc, à première vue, il y a une petite satisfaction parce qu'ils ont arraché quelque chose. Mais de l'autre côté, le problème reste posé. Qui peut nous assurer que ces promesses de réforme vont être effectives ? Quel est le statut de cette conférence nationale ? Est-ce qu'elle va être autonome ? Les élections, comment ça va se passer exactement ? Sachant bien que l'administration, elle est là. Comment l'argent sale ne s'ingère pas dans la chose politique, dans les élections ? Tous les problèmes restent posés.
Le sociologue Nasser Djabi au téléphone de Nabila Hamel. Nissan réunit aujourd'hui un conseil d'administration en banlieue de Tokyo, au Japon. Carlos Ghosn, qui en est toujours l'administrateur, n'a pas été autorisé à y assister. Cette réunion doit acter la création d'un comité tripartite entre les constructeurs alliés Renault, Nissan et Mitsubishi. L'automobile toujours avec une autre alliance. Michelin et Faurecia veulent ensemble développer la pile à combustible, une technologie qui permet de propulser un véhicule électrique grâce à l'hydrogène. Et c'est un pari sur l'avenir, à leur choix.
C'est un effet du Dieselgate. L'industrie automobile se rue sur les technologies qui permettraient de se conformer au durcissement des règles européennes en matière d'émissions de CO2. Et les pouvoirs publics font de même. L'électrification de la voiture passe par différentes technologies et c'est donc l'hydrogène qu'ont choisi les équipementiers français, à l'instar de quelques-uns de leurs concurrents allemands. La pile à combustible, la voiture à hydrogène donc, a un atout de taille, en effet son autonomie. Et un inconvénient majeur, il n'existe presque pas d'infrastructure qui permettrait de la développer, principalement des pompes à hydrogène. C'est dans cette optique, développer les infrastructures, que vont donc travailler Michelin et Faurecia, en partenariat notamment avec Engie. L'hydrogène mobilise beaucoup de moyens chez les constructeurs également. Honda et General Motors, par exemple, vont investir 85 millions de dollars pour produire des piles à combustible dès 2020. Sur ce même secteur, Toyota s'est allié avec BMW en 2013. En France, ce sont donc les équipementiers plutôt que les constructeurs qui investissent le marché. Personne ne sait à quelle vitesse celui-ci se développera, ni même s'il se développera. Quoi qu'il en soit, la technologie prometteuse reste à améliorer. Pas de réseau de distribution pour l'instant, ou si peu, des voitures qui coûtent extrêmement cher et des piles à combustible encore trop volumineuses, sans compter que le stockage et le transport de l'hydrogène sont très contraignants. On ne saura que dans quelques années si Michelin, Faurecia et les autres ont fait le bon pari.
Le djihadiste Mehdi Nemmouch a été condamné cette nuit à la perpétuité pour l'attaque du musée juif de Bruxelles en 2014. La cour a rendu son verdict après 8 heures de délibéré. Il est conforme aux réquisitions de l'avocat général. Leur préjudice d'anxiété sera-t-il reconnu ? Aujourd'hui, plus de 1200 salariés et anciens salariés du site de Renault Trucks à Vénissieux, près de Lyon, sont convoqués par la justice. Ils ont travaillé entre 1964 et 1996 sur le site amianté de Vénissieux. Cela a été prouvé en 2016 et ils demandent donc à ce que leur préjudice d'anxiété soit reconnu. La jurisprudence a beaucoup évolué autour de cette question. C'est ce qu'estime maître Cédric de Romanet. Il défend les plaignants et se dit assez confiant.
La Cour de cassation a affiné sa jurisprudence au fur et à mesure des décisions qui lui étaient soumises. Et on a aujourd'hui un cadre juridique qui est quand même très clair sur la question du préjudice d'anxiété. Le fait d'avoir travaillé sur un site inscrit par le ministère du Travail sur la liste des établissements ouvrant droit à la CATA, donc en allocation de cessation anticipée des travailleurs de l'amiante, permet de bénéficier d'une présomption d'exposition à l'amiante, présomption d'exposition qui peut être combattu par l'employeur mais qui n'y parvient pas dans la mesure où ce type d'entreprise, justement parce qu'elle ne respectait pas la réglementation en matière d'hygiène et de sécurité, se trouve classée du fait de cette absence de protection prise. Et donc cette présomption entraîne l'indemnisation d'un préjudice d'anxiété sans qu'il soit nécessaire pour le salarié d'en rapporter la preuve, dans la mesure où la Cour de cassation considère que la connaissance du classement du site en ACATA engendre l'existence d'un préjudice d'anxiété.
De son côté, Renault Trucks n'a pas souhaité s'exprimer. Le web fête ses 30 ans aujourd'hui. C'est le 12 mars 1989 que le Britannique Tim Berners-Lee a proposé à son chef de mettre en place un système de gestion de l'information. Il le baptisera World Wide Web, abrégé 3W. Vague mais prometteur, lui avait alors répondu son patron. 30 ans après, le Britannique revient sur cette invention avec Jérémy Lanche.
Please help me welcome Sir Tim Berners-Lee.
Le retour de Tim Berners-Lee à Genève n'a rien à voir avec celui d'une rockstar. Le nom du Britannique n'évoque pas grand-chose pour la plupart des internautes. Avant d'accepter un prix en 2004, Berners-Lee n'avait jamais touché un centime pour son invention qu'il voulait libre et gratuite. Mais depuis quelques années, il est inquiet devant les dérives de l'Internet.
The first 15-20 years, we did celebrate. But now, it was the Brexit and Trump elections, the fact that the elections themselves were actually undermined. Social networking platforms, which had been designed with the best interests, in fact, turned out to forge huge groups who believed conspiracy theories. So it's not just about keeping the web open and free. We also have to make sure that the things which are built using the web are constructive.
Fake news, collecte de données personnelles par les GAFA, Internet serait menacé selon Tim Berners-Lee. Le physicien propose de lui apporter une amélioration. Il appelle à un contrat pour le web pour revenir, dit-il, à la science et aux faits et garantir le respect de la vie privée.
Jérémy Lanche, notre correspondant depuis Genève, qui donnait donc la parole à Tim Berners-Lee, qui a expliqué dans son reportage que les résultats des élections de Trump, l'élection du Brexit, avaient été biaisés. Les réseaux sociaux, a-t-il dit, ont créé avec les meilleures intentions du monde ces résultats biaisés et ont au final permis la création de très groupes conspirationnistes. Voilà ce que disait Tim Berners-Lee à propos des limites du web aujourd'hui. Il y a 30 ans, l'invention du web sans tambour ni trompette. C'est un article que vous pouvez retrouver en une de notre site franceculture.fr. La météo très rapidement avec une nouvelle perturbation pluvieuse qui arrive par la Bretagne et la Normandie aujourd'hui. Comptez 5 degrés à Besançon, 9 degrés à Bordeaux et Paris, 13 à Nice. Bonjour Jacques Munier.
Bonjour, bonjour Clara Lecoq-Réal.
À 6h40, vous nous rejoignez pour le journal des idées. Il y a bientôt 50 ans, en avril 69, Jacques, oui, le général de Gaulle quittait le pouvoir. Et à l'approche de cette date anniversaire, des historiens s'opposent sur l'héritage.
Dans un passage célèbre de Clio, Charles Péguy, l'un des auteurs préférés du général, évoque la différence entre l'histoire et la mémoire. L'histoire est essentiellement longitudinale, la mémoire est essentiellement verticale. L'histoire consiste essentiellement à passer au long de l'événement. La mémoire consiste essentiellement, étant dedans l'événement, avant tout à n'en pas sortir, à y rester et à le remonter en dedans. La mémoire et l'histoire forment un angle droit. On peut dire qu'avec De Gaulle, elles sont d'équerre dans le récit national, l'une à l'aplomb de l'autre, à tel point que ses plus farouches adversaires d'hier en revendiquent aujourd'hui les restes symboliques, comme le Rassemblement National, ex-Front National, ainsi rebaptisé, en écho au Rassemblement du Peuple Français, le RPF, fondé en 1947 par le général. C'est pourquoi le détour par l'historiographie étrangère peut s'avérer éclairant, en particulier celle des anglo-saxons, peu suspect d'idolâtrie. Dans le mensuel Books, deux historiens s'opposent encore, et qui plus est, l'un sur la lecture de l'autre. Ferdinand Mount rend compte dans la London Review of Books du livre de Julian Jackson, Une certaine idée de la France, la vie de Charles de Gaulle, à paraître au Seuil en septembre. Et en retour, son auteur conteste la vision négative que celui-ci a tirée de son ouvrage sur les trois aspects essentiels de l'héritage gaullien, la libération sans guerre civile, la décolonisation et la constitution de la Ve République. Mount ne retient qu'une forme de cynisme rétrograde. Évoquant le discours du 6 juin 1944, la bataille suprême est engagée, il rappelle le mot de Churchill à Roosevelt sur le speech d'autant plus remarquable que De Gaulle ne dispose pas du moindre soldat dans la grande bataille en question. La décolonisation de l'Algérie n'aurait été pour lui qu'un marchepied pour l'Élysée. Et la constitution de la Ve République, un costume taillé à sa mesure qui s'est révélé au fil du temps trop large pour ses successeurs, à l'exception de Mitterrand qui avait su cultiver une même ambiguïté entre les deux France. De Gaulle était incontestablement un grand orateur, mais ses discours n'avaient que deux registres, les périodes sonores à la Bossuet et les obscénités de caserne, con, merde, chienlit, écrit encore Ferdinand Mount. Et sur les célèbres formules, je vous ai compris, ou vive le Québec libre, voire sa sortie sur l'unité de l'Irlande, l'ex-conseiller de Margaret Thatcher évoque un goût prononcé pour la provocation en citant Raymond Aron. Je crois que le général de Gaulle ne prend pas lui-même au sérieux la moitié des arguments qu'il emploie et qu'il se distrait solitairement au spectacle des polémiques qu'il déchaîne. Sur la politique algérienne, Julian Jackson admet que le général n'a pas été le décolonisateur clairvoyant qu'un gaullisme de gauche se plaît à célébrer, ne serait-ce que parce que la crise, la guerre, se prolongea 4 années après son retour au pouvoir et que le sort des harkis en reste le point obscur. Mais sur la politique étrangère de la France à l'époque de la guerre froide, sa position de non-aligné parmi les non-alignés visait à maintenir l'indépendance de notre pays dans le concert des nations et elle n'était pas dénuée de pensée stratégique au-delà de l'affrontement des blocs. Ainsi, la leçon administrée à Richard Nixon en mars 1969 sur les périls et la futilité de l'engagement américain au Vietnam, ou sa mise en garde sur le fait qu'un jour les États-Unis pourraient ne plus penser que leurs intérêts sont inextricablement liés à ceux de l'Europe et l'exhortant à organiser sa propre défense, un discours qui apparaît aujourd'hui prophétique. Le Figaro publie en page champ libre les bonnes feuilles du livre d'Arnaud Tessier, De Gaulle 1969, publié chez Perrin. L'historien revient notamment sur les semaines cruciales de mai 68. Selon lui, De Gaulle a parfaitement pris la mesure des événements et fort bien compris qu'un personnage nouveau est apparu dans l'histoire du pays, la société. La question reste ouverte, à en juger par le commentaire de l'auteur, selon lequel la loi de la politique démocratique, c'est l'exercice de la souveraineté et de la puissance, la capacité d'exercer la décision bien loin de l'instance d'arbitrage, de concertation ou de consensus qui tenterait d'imposer plus tard la gouvernance face à la poupée qui fait nom de Michel Polnareff en 69. Ce serait la souveraineté du peuple contre celle de la société, cette identité usurpée, je cite, qui contient peut-être en germe sa propre mort. Le 27 avril 1969, le non l'emporte alors que la participation est très élevée, 80%. Il y a de toute évidence beaucoup d'aspects déplaisants chez De Gaulle, souligne l'historien britannique Julian Jackson. Mais en fin de compte, c'est la mélancolie, jamais très loin, sous la surface de cette fierté ombrageuse, qui parvient dans mon esprit à humaniser cet homme fier, étrange et gauche. 6h46, vous écoutez France Culture, évidemment. Bonjour Xavier Martinet.
Bonjour Jacques Migné, bonjour à tous.
Alors, dans les enjeux internationaux, aujourd'hui, l'Algérie, après le retrait de Bouteflika et le report de l'élection.
Voilà, c'est ça. Elle n'aura pas lieu le 18 avril. En tout cas, c'était le message hier soir de la présidence algérienne qui annonce aussi une conférence nationale et peut-être une nouvelle constitution avant la fin de l'année. Le président ne se présente pas, mais ne part pas non plus. Alors, quelle suite ? Perestroïka ou reprise en main, Gorbatchev ou Poutine, c'était une alternative que vous posiez. Kader Abderrahim, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être au téléphone, maître de conférence à Sciences Po, spécialiste du Maghreb, bien sûr. Alors, qu'est-ce que vous retenez pour commencer de cette séquence, c'est-à-dire le verre à moitié vide ou à moitié plein, pas de cinquième mandat, ou cette prolongation pour l'instant du quatrième mandat ?
Oui, je préfère retenir le fait que c'est une fausse sortie en réalité, hein, puisque constitutionnellement, rien ne permet au président de la République actuelle de prolonger son mandat d'autorité. Et on voudrait savoir sur quelle base juridique cela va se faire. Et il reste encore beaucoup de questions en suspens. Et c'est une bonne annonce, mais avec une très mauvaise application. Donc je suis très mitigé ce matin et depuis hier soir déjà sur cette annonce qui en réalité n'en est pas une.
Et sur le ton de ce message ou de cette lettre, peut-être un peu testamentaire, qu'est-ce que vous en pensez ? Il y a un vocabulaire qui parle de ultime devoir envers le peuple algérien, processus de transformation de notre État-nation que j'estime être ma mission ultime encore. Je disais testament, ça y fait penser quand même un peu politiquement.
Oui, absolument. Ça n'est pas qu'un testament politique, c'est peut-être aussi un testament philosophique et moral. Et il sait qu'il devra rendre des comptes et que face à l'histoire, elle le jugera de manière très sévère parce qu'il a une énorme responsabilité dans l'impasse institutionnelle et politique dans laquelle se trouve aujourd'hui l'Algérie. Et par conséquent, cette fausse sortie va ajouter, je dirais, encore à son passif alors que, puisqu'il décide de ne pas se briguer un cinquième mandat, qu'il aille jusqu'au bout de cette logique et qu'il soit en capacité de dire « je passe réellement le relais ». Un nouveau gouvernement est en train d'être constitué. C'est lui qui doit expliquer les affaires courantes et c'est lui qui doit gérer cette transition et cette conférence nationale.
Alors, est-ce qu'il y a des raisons de croire tout de même qu'il pourrait ne pas s'agir d'une ruse, hein, comme le disaient certains parmi les plus sceptiques, Ali Benflis ou l'ancien ministre de la Culture Abdelaziz Rahabi aujourd'hui. Qu'est-ce qui permettrait effectivement qu'il y ait véritablement une transition, comme il l'a annoncé?
C'est difficile à dire. À ce stade, on n'a pas plus d'éléments que ça. Voilà, vous voyez, c'est un peu la situation dans laquelle se trouvent les Algériens depuis à peu près plus de 55 ans, depuis leur indépendance. C'est un système qui est extrêmement opaque et on a la sensation, comme toujours, d'être redevable à ces gens sur la gestion du pays. Et on a la sensation que c'est quand même un pays qui leur appartient avec évidemment ses richesses, avec une population, avec ses institutions. Ils ne rendent pas compte. Ça se fait dans une opacité totale. Pourquoi dire je me retire, je ne ferai pas cinquième mandat et en même temps annoncer des mesures qui paraissent plutôt positives puisqu'on entrerait, il faut rester prudent, dans un processus de démocratisation. C'est assez ambigu, c'est peut-être malin, je ne sais pas. Au sens de malignité et je pense que les manifestations vont se poursuivre et que les revendications ne vont pas baisser. Au contraire, les manifestants, les Algériens vont continuer à réclamer son retrait définitif de la vie publique.
Et on va redire un mot de la société civile pour terminer sur le président. Est-ce que ça signifie qu'il aurait fallu parler de lui avec des guillemets autrement dit, est-ce que c'était pas un peu une fiction ce cinquième mandat et est-ce que ce Abdelaziz Bouteflika n'est pas en train de servir de fusible à son entourage, hein, pour le dire comme ça?
Peut-être, ça aussi c'est difficile à dire, je suis incapable de répondre à cette question, je ne sais pas quel est son état réel, il y a beaucoup d'informations qui circulent, bonnes, mauvaises, vérifiées, avérées, je ne sais pas. En réalité, peu importe tout cela, il est le chef de l'État. Depuis 2013, c'est un président fantôme qui n'est pas en capacité d'exercer ses fonctions. Par conséquent, il aurait dû, par sagesse et par respect pour les institutions et pour son peuple, déjà se retirer depuis longtemps. Est-ce que c'est son entourage qui l'instrumentalise? Est-ce que c'est un petit clan? Pour quelles raisons? Pour quelles visées? Quels objectifs cela sert-il? On voit bien que l'Algérie, petit à petit, est en train de s'enfoncer silencieusement dans une crise qui est extrêmement grave et dont les périls ne sont pas totalement surmontés à l'heure à laquelle nous parlons. Oui. Donc, voilà, il reste encore beaucoup de questions en suspens et il faudra pas tarder à lever les hypothèques qui reste aujourd'hui encore.
Et de ce point de vue-là, qu'est-ce que pourrait amener le retour ou l'arrivée de ces figures institutionnelles qu'on a présentées comme probes, hein? Je veux parler du remplacement du Premier ministre Ahmed Ouyahia par l'ex-ministre de l'Intérieur Noureddine Bédoui, hein, qui est un ancien préfet plusieurs fois, et puis bien sûr le retour de Ramtane Lamamra, l'ancien ministre des Affaires étrangères, cette fois comme vice-premier ministre, c'est ça?
Oui, là aussi, on joue avec les institutions. La fonction de vice-premier ministre n'existe pas dans la Constitution. Donc, on fait des petits arrangements. Vous voyez, il y a tout un tas de petits détails qui montrent qu'en réalité, ces gens n'ont pas perdu leur réflexe. Pourquoi ajouter ou surajouter à un millefeuille déjà bien indigeste une fonction supplémentaire alors que celle du Premier ministre, puisque le prénom lui-même annonce qu'il s'agit d'un gouvernement qui sera chargé d'expédier les affaires courantes. Ça suffit, il faut faire un gouvernement compact, limité à 15 ou 16 ministres qui puissent vraiment travailler et se concentrer sur l'organisation de la conférence nationale et du processus de transition.
Oui.
Et on voit bien qu'il s'agit de marquer un peu à la culotte, comme on dit en termes sportifs, le Premier ministre.
Et est-ce que, quand bien même concernant, disons, la solidité ou la souplesse de ce qu'on pourrait appeler, en gros, le régime, est-ce qu'il n'y a pas eu quand même, juste ces derniers jours, des pressions ou des défections trop importantes? Je veux parler de la grève générale, de l'UGTA, le principal syndicat qui voulait la démission de son président, surtout des 1000 juges qui refusaient de superviser l'élection, les anciens combattants. En gros, est-ce que c'était pas trop, objectivement, pour le FLN, hein, et l'alliance présidentielle?
Mais même au FLN, ça craque, hein, c'est un bateau qui prend l'eau de toutes parts, vous avez raison, toutes ces organisations satellites du FLN, tous ces hommes d'affaires, notamment, hein, avec un patronat qui est entré dans une très grave crise, et qui eux aussi devront rendre des comptes sur la manière dont ils ont amassé leur fortune. Ça fait effectivement beaucoup, donc probablement quelque part dans un cénacle, au cours d'un conclave, des hommes ont jugé que ça allait trop loin et qu'il fallait penser au coup d'après, comme on dit, aux échecs. Et par conséquent, aujourd'hui, la situation allait vraiment... Encore une fois, on a très peu d'informations sur ce qui nous a conduit à cette situation. Par conséquent, aujourd'hui, ce qui est essentiel, encore une fois, je crois que c'est la principale préoccupation qu'on doit avoir, c'est d'éviter la confrontation et d'éviter les dérapages. Parce que si jamais une certaine jeunesse estime que c'est une frustration insupportable de voir le président à nouveau toujours tenter de jouer avec le sort, ça peut déraper. Donc je crois qu'il faut rester extrêmement vigilant.
Donc tout risque de reprise en main, disons, de par l'armée un peu à la Sissi n'est pas écarté selon vous, même s'il y a eu le ménage fait dans l'organigramme militaire l'année dernière.
Oui, c'est pas totalement écarté, même si je n'y crois pas, mais encore une fois, une provocation, ils ont l'habitude, la police politique nous a souvent tiré ça de son sac au cours des années 80 et 90, donc c'est tout à fait possible. Il faut rester très vigilant, il faut rester prudent dans ce qu'on dit, et surtout continuer à soutenir ceux qui se mobilisent. Mmh. En tout cas, je relève une fois de plus que c'est la première réaction internationale hier soir a été la réaction américaine, et que par conséquent, ça fait deux fois que les Américains s'expriment. C'est un peu le même processus que celui auquel nous avions assisté après les grandes mobilisations populaires en Égypte. Peut-être que c'est une manière très diplomatique d'apporter un soutien à une population qui en a bien besoin, parce qu'elle est totalement livrée à elle-même.
Ouais, et toute dernière chose, alors s'il y a avancée historique, c'est par rapport à quoi? L'indépendance de 62, la répression de 88 ou le retour de Bouteflika, justement comme plus petit dénominateur commun? Désormais, ça c'est éliminé, il faut trouver un autre dénominateur, non?
Oui, vous avez raison, mais l'histoire, vous savez, c'est un ensemble. On peut pas prendre ce qui nous arrange, ouais, ou ce qui vous paraît le plus présentable. Donc, il faut garder tout cela. Mais si je devais résumer d'une formule un peu lapidaire, je dirais que en 1962, l'Algérie a vécu son indépendance et que l'histoire se souviendra qu'en février-mars 2019, elle a retrouvé sa libération, ou elle a acquis sa libération.
Et on approche du 18 mars, de la date du 18 mars d'ailleurs. Merci beaucoup pour vos explications ce matin. On suit tout ça jusqu'aux manifestations du 15, évidemment. Kader Abderrahim, maître de conférence à Sciences Po, et on renverra à votre géopolitique du Maroc sur le site de France Culture. Merci et bonne journée.